Le journal, Levin Bunga. Bonsoir, l'actualité de ce jeudi reste toujours dominée par la publication hier des candidatures retenues pour la présidentielle. Dans ce journal, la liste complète des sélectionnés. 4 miliciens tués, 4 militaires de l'armée régulière blessés. Bilan des opérations de ratissage menées mardi dernier par des soldats des FRDC dans le village de Loga, au nord de Bunia. Précision du porte-parole des FRDC en Ituri dans un instant. L'autre titre de l'actualité, c'est cet appel de fonds lancé par la FAO pour sauver les populations congolaises de la pauvreté. Mais en attendant, sa cible actuelle reste les déplacés du Nord et du Sud Kivu. Nous le disions en ouverture de ce journal, l'actualité de ce jeudi reste encore marquée par la publication hier des candidatures retenues pour la présidentielle. Sur 73 dossiers présentés, 32 ont été reçus et 41 ont été déclarés irrecevables. 4 femmes figurent parmi les 32 candidats retenus. 5 candidats se sont présentés comme indépendants, parmi lesquels l'actuel chef de l'État Joseph Kabila. Retour sur la liste de ces candidats retenus pour la présidentielle avec Jacques Matande.
Les candidats retenus sont le suivant: Banyengela Kasonga, Jean-Pierre Bemba Gombo, Ejeune Diomi Ndongala, Antoine Gizenga, Bernard Emmanuel Kabatuti Suila, Joseph Kabila Kabange, Gérard Kamanda Wakamanda, Oscar Kachala, Norbert Likulia Bolongo, Roger Lumbala, Guy Patrice Lumumba, Vincent De Paul Lunda Bouloulou, Pierre-Antoine Matusila Malu Ngeni, Christophe Mboso Kodia Pwanga, Antipa Boussa Nyamusi, Mbuyi Kalala Ala Fuele, François-Joseph Mobutu Nzanga Gawe, Florentin Mokondo Boza, Timothée Moleka Nzulama, Justine Mpoyo Kasavubu, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, Paul-Joseph Mukungubila Mutombo, Ose Muyima Njoko, Arthur Ngoma Zaidi, Jacob Nyemba Sunga, Wivin Landu Kavidi, Marie-Thérèse Landu Mpolo Nene, Catherine Marthe Nzuzi Wambombo, Joseph Olengankoy Mukunji, Pierre Pai Pai Wasia Kasige, Azarias Ruberwa Maniwa, Hassan Tassinda Uba Tassinda.
Notez par ailleurs que 40 dossiers de candidature ont été jugés irrecevables à cause du non-paiement de la caution exigée, soit 50 000 dollars américains. Un dossier de candidature à la présidence a été rejeté à cause du manque du casier judiciaire. 4 miliciens ont été tués mardi dernier lors des opérations de ratissage menées par les soldats de l'armée régulière. Ces opérations se sont déroulées dans le village de Loga, à près de 30 km au nord de la cité de Bunia. 4 militaires FRDC ont été blessés au cours de cette opération, mais leur vie ne serait pas en danger, a indiqué le porte-parole des FRDC en Ituri, le capitaine Charles Boeka. Il ajoute également que les miliciens ont également été délogés des localités de Katoto et de Lita, toujours à une trentaine de kilomètres de Bunia. Suivez les explications du capitaine Charles Boeka au micro de Charles Ndirisha.
Le bilan est tel que nous avons fait 4 morts du côté milicien qui était commandé par un certain colonel Baraka qui est déjà en fuite en direction de Mahagi.
Ce colonel Baraka dont vous parlez, qui est-il?
C'est un jeune de Fatak. Il était dans les groupes de Peter Karim dans la localité de Nyoka. Quand on a combattu là-bas, il avait pris la fuite vers l'Ouganda et maintenant il est rentré pour venir et peut-être se réorganiser.
Comment expliquer qu'il y a une forte réorganisation des miliciens tout autour de la ville de Bunia?
La population de l'Ituri doit comprendre que le moment de désordre est déjà fini. La population contribue à la réorganisation de ces groupes milices. Et leurs alliés qui avaient fui ici pendant les hostilités sont partis dans le Nord Kivu. Ils sont encore revenus dans la brousse, amenant derrière eux les démobilisés du Nord Kivu. Nous avons des informations dessus.
Nous ne quittons pas ce chapitre militaire. Notez que les responsables de la 8e région militaire et ceux de la MONUC Goma ont effectué une mission hier mercredi à Kanyabayonga, à 150 km de la ville de Goma. Cette mission visait à rassurer la population de cette cité qui a toujours vécu dans la peur depuis les affrontements qui ont opposé au mois de mars dernier des troupes FRDC à Mirangi, localité située à 35 km de la cité de Kanyabayonga, a souligné le commandant de la 8e région militaire. Le général Amissi déclare qu'il était aussi question pour lui de rétablir l'ordre entre ses troupes FRDC qui s'étaient affrontées. De Goma, une correspondance de Gisèle.
Les populations de Kanyabayonga craignaient depuis quelques jours en effet la présence de troupes ex-ANC déployées par la 8e région militaire à Mirangi à 35 km de Kanyabayonga. Ces troupes ex-ANC s'étaient affrontées le 20 mars dernier avec des ex-Maïmaïa Mirongi, toutes les deux unités n'étant pas encore brassées. C'est justement pour apaiser la population que le général Amissi a tenu à expliquer les raisons de ces affrontements. Ces affrontements, a dit le général, étaient le fait d'une incompréhension entre ces militaires. Pour le général Amissi, le bataillon ex-ANC déployé à Mirongi devait remplacer celui du colonel Ndelema. Cela, selon lui, visait à briser la collaboration observée depuis quelques temps entre ces éléments du colonel Ndelema avec des FDLR. Des FDLR actuellement auteurs des pillages à Mirongi et dans plusieurs autres localités, notamment à Somikivu et Nyanzale. Aussi, cette mission à Kanyabayonga avait pour objectif de régler cette incompréhension entre les deux unités FARDC qui se sont affrontées à Mirongi. Seulement, le commandant de ces deux unités était absent. Certains habitants à Kanyabayonga, qui se disent actuellement rassurés, croient cependant que la sécurité dans cette région sera effective uniquement avec le déploiement des unités brassées. Gisèle Cash, Goma, Radio Okapi.
Et puis, sachez que plus de 800 casques bleus de l'opération des Nations Unies au Burundi, ONUB, vont être redéployés en RDC dès le mois de mai prochain. Information donnée ce jeudi à Bujumbura par le porte-parole de cette mission au cours d'un point de presse. Sur ses effectifs, 720 soldats pakistanais seront déployés au Katanga et 50 observateurs dans le reste de la RDC. Ce redéploiement vers la MONUC d'une partie du contingent de l'ONU est conforme à la résolution 1650 de décembre dernier du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement de la RDC demande à la SADC un soutien au processus d'intégration des FARDC et à la sécurisation de la période préélectorale, électorale et postélectorale. Demande faite au cours d'une séance de travail de 2 jours à Kinshasa. Cette réunion a regroupé les ministres de la Défense de la Tanzanie et de la Namibie ainsi que le vice-ministre sud-africain de la Défense. Les partenaires de la SADC ont promis ce jeudi, à l'issue de la réunion, d'examiner la requête congolaise. Pour boucler ce registre consacré à l'armée, nous vous signalons que le commandant FARDC en charge du centre de brassage de Kamina au Katanga ainsi que 3 autres officiers sont mis en résidence surveillée depuis lundi dernier. Selon l'auditeur de garnison de Kamina, ces officiers sont soupçonnés de détournement des vivres des militaires qui sont au centre de brassage. Plus d'explications avec Denise Maheu.
Selon l'auditeur de garnison de Kamina, les conditions de vie des militaires du centre de brassage ne sont pas bonnes. Ils mangent difficilement et les soins de santé primaires sont presque inexistants. Voilà qui aurait conduit la hiérarchie militaire d'enquêter sur la situation. La première mission, initiée par l'inspectorat général de Kinshasa, s'est rendue à Kamina au mois de mars dernier. Une autre mission, celle de la structure militaire d'intégration, séjourne encore à Kamina. Ces missions d'enquête soupçonnent le colonel Salomon Mushindi, responsable du centre de brassage, de complice dans le détournement des frais affectés au centre de brassage de Kamina. Le coordonnateur national de la structure militaire d'intégration indique que les autorités militaires ont pris une mesure conservatoire en plaçant le colonel Salomon sous résidence surveillée. Lui et ses collègues seront acheminés à Kinshasa pour répondre des faits qui leur sont reprochés, précise le colonel Mbiatou. Rappelons que Kamina accueille actuellement plus de 6000 combattants. Il y a plus d'un mois, 6 combattants sont morts de famine à Kamina. Lubumbashi, Denise Mayor, Radio Okapi.
L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, a évalué à 50 millions de dollars américains les besoins de la RDC en matière d'agriculture. Mais cette somme est encore attendue des bailleurs de fonds. Et pourtant, la majorité des populations concernées se trouvent dans une situation très précaire qui nécessite une aide urgente. Pour l'instant, la FAO affirme donc consacrer le peu de fonds qu'elle a aux zones prioritaires où beaucoup de déplacés ont été enregistrés, notamment le Nord et le Sud Kivu. On écoute le coordonnateur des urgences de la FAO, Alex Nyarko. Il est joint par Clara Kabundi.
La période pour récolter l'argent ne dépend pas de la FAO, mais plutôt des bailleurs. Et j'espère qu'ils sont en train de nous écouter. On ne peut pas mettre de pression. Il y a déjà le plan d'action qui a été lancé le 13 février. Donc sur la base de ce plan d'action, je crois que les bailleurs sont sensibilisés et nous attendons la proposition de fonds et tout. Pour le moment, il y a un peu de fonds. On va commencer avec. Donc, il y a à partir du plan d'action où Le pool fund a permis de mettre déjà à disposition un peu de fonds. Nous allons démarrer avec cela au niveau des zones prioritaires, donc les plus urgentes. Eh bien, c'est les zones qui sont actuellement affectées par les déplacements de population. Si je prends le cas du Nord Kivu, nous avons les zones de Kibirizi, nous avons les zones de Kanyabayonga, nous avons l'Issale. Il y a beaucoup de zones qui sont actuellement en insécurité alimentaire, très, très importante. Donc, on peut commencer par ces zones prioritaires. Au niveau du Sud Kivu, il y a la zone de Bunakiri. Et puis, les rapatriés qui vont arriver de Tanzanie, donc il y a des priorités.
Pénurie d'eau depuis près d'une semaine à Mbandaka. La régie des eaux ne distribue plus d'eau à ses abonnés suite à une panne technique qu'a connue son groupe électrogène. Conséquence, les habitants du chef-lieu de l'Équateur, qui ne savent plus à quel sens se vouer, recourent aux eaux du fleuve et des puits. Et du coup, les propriétaires des puits réalisent des recettes. Le seau d'eau est vendu à 50, voire 100 francs congolais. Des précisions avec Ghislaine Nintobo.
Ces derniers jours, trouver de l'eau est devenu un véritable casse-tête pour les Mbandakais. Aucune goutte d'eau de la régie des eaux depuis que le groupe électrogène de cette société est tombé en panne. Les ménagères parcourent parfois de longues distances à la recherche de l'eau. Dans cette ville où il n'y a pas assez de sources d'eau aménagées, les gens utilisent plus les eaux de puits et de fleuves pour la boisson et pour d'autres usages. Et un bon nombre de ces puits ne sont pas traités. Dans les endroits où l'on trouve des sources aménagées, les gens se bousculent et se disputent. Parfois, ces disputes dégénèrent en bagarre. Cette pénurie d'eau Mbandaka affecte plus les écoliers et les employés. Certains se présentent à l'école ou au service en retard parce qu'ils n'ont pas pu se procurer de l'eau à temps. D'autres se lavent à peine le visage et le pied. Par contre, cette pénurie donne l'occasion aux propriétaires de puits de se faire de l'argent. Ils vendent un seau d'eau à 50, 80, voire 100 francs congolais. Contacté, le directeur de la régie des eaux Mbandaka, Patrice Ilunga, déclare que son réseau de distribution de l'eau est arrêté suite à une panne du groupe électrogène devenu vétuste. Néanmoins, rassure-t-il, d'ici peu, le groupe sera dopané. En attendant, les Mbandakais devront continuer à subir la loi des propriétaires de puits d'eau et à s'exposer aux maladies d'origine hydrique. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
De l'eau à l'électricité, il n'y a qu'un pas. Au sud Kivu, la SNEL annonce la mise en place d'un nouveau planning de délestage pour la ville de Bukavu afin de pallier au manque d'électricité. Ce planning est en application depuis le 1er avril et se termine à la fin de ce mois. Et pourtant, en février dernier, le gouverneur du Sud Kivu avait promis que la ville de Bukavu ne connaîtrait plus de problèmes d'électricité. C'était à l'occasion de la visite du ministre de l'Énergie et du chef de l'État. Plusieurs tonnes de matériel électrique avaient été livrées pour résoudre le problème d'électricité. Sud Kivu, dans un tout autre registre, près de 15 chercheurs ont quitté Bukavu, destination la forêt d'Itombwe, dans le territoire de Mwenga, où ils vont passer 2 mois. Ces chercheurs de l'ONG internationale, Société pour la conservation de la faune, vont recenser les différentes espèces animales, notamment les primates, afin de mieux les protéger. On écoute le chercheur Prince Kalema, qui fait partie de cette mission. Il est au micro de Astrid Mujinga.
Nous nous rendons là pour inventorier des espèces animales comme les gorilles, les singes, d'autres grands animaux comme les éléphants, les buffles, des animaux moyens comme les antilopes. Nous allons inventorier toutes les espèces qui sont dans la forêt, les espèces d'oiseaux, même les mammifères inférieurs comme le rat, les chauves-souris, inventorier les espèces d'arbres qu'on peut trouver par là. On ne peut pas vivre dans un milieu sans connaître sa faune et sa flore. Par ces temps qui courent ou beaucoup de gens ont faim. On a assisté à des catastrophes. Si on pouvait savoir ce qu'il y a dans nos forêts, ce qu'on dispose comme richesse, si on pouvait prendre des mesures pour la protection, on peut avoir suffisamment à manger dans les jours qui viennent. Et encore, lorsque ces animaux vont se multiplier, ils ne vont pas rester sur les lieux où on les protège.
En Afrique, au total, 155 personnes sont mortes du choléra sur environ 3600 cas qui ont été signalés en Angola entre le 13 février et le 4 avril, selon un communiqué officiel publié mercredi à Luanda. Outre la province de Luanda, des cas de choléra continuent d'être signalés dans les provinces de Bengo, de Benguela et de Kwanza Norte, où la situation est grave, selon le communiqué publié par l'Organisation mondiale de la santé et le ministère angolais de la santé. Et puis, les Nations unies appellent la communauté internationale à faire pression sur le Soudan pour qu'il laisse les ONG travailler librement au Darfour. Cette nouvelle intervient quelques jours après que les autorités soudanaises aient donné l'ordre à une ONG norvégienne de cesser toutes ses activités au Darfour, notamment dans le plus grand camp de réfugiés de la région.